BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, aujourd'hui, c'est Frédéric Simotel qui jouera les Globetrotters avec ses livres venus de l'étranger. Et puis Marjorie Adelson qui sera notre bibliothécaire. N'oubliez pas tous nos réseaux sociaux, Instagram, X, Facebook, LinkedIn, YouTube, la librairie de l'écho pour retrouver les replays de l'émission, pour retrouver les programmes détaillés, la liste de tous les livres dont on vous parle dans l'émission. Et tout de suite, place aux auteurs. La crise que traverse une partie de notre agriculture sera bien sûr atténuée par des aides financières, par une simplification des normes, voire un rééquilibrage des conditions de la concurrence avec le reste du monde. Mais ce qui sauvera notre agriculture, c'est, comme depuis la nuit des temps d'ailleurs, l'innovation. Et puis dans quelle mesure l'innovation sera une réponse aux défis climatiques que doit relever le secteur de la viticulture. Je rappelle que l'enjeu est de taille, puisque le secteur des vins et spiritueux est notre deuxième excédent commercial et le plus gros employeur des territoires après l'État. Pour répondre à toutes ces questions, deux invités dans la librairie de l'écho, un habitué, vous le connaissez bien, Hervé Pilot, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Hervé, vous êtes le seul agriculteur à avoir siégé au Conseil national du numérique. Je pense que dans tout ce que vous avez fait, dans votre CV, c'est la ligne qui m'amuse le plus et que je trouve la plus passionnante. Et vous publiez « Vers un monde sans fin », FIM, évidemment, aux éditions Diateino. Yves Lers, bonjour. Vous êtes journaliste, expert des questions d'environnement et d'alimentation. Et vous publiez « Vin, le grand bouleversement » aux éditions Boucher-Chastel avec Valérie Laramé de Tannenberg. On est ravis pour la première fois de parler de vin dans la librairie de l'écho, avec modération, bien entendu. Pas pour en parler, hein, pour le boire. On commence avec vous, Hervé Pilot. Alors, on entend quand même souvent qu'on est allé trop loin dans le productivisme et que finalement, la petite musique, c'est que le progrès, ce serait de revenir en arrière, voire plus petit, plus naturel. Et quand on lit votre livre, on se dit, mais bon sang de bonsoir, en fait, l'histoire de l'agriculture, c'est l'histoire de 160 000 ans d'innovation et de progrès technique.
C'est ça. C'est ça, depuis la nuit des temps, l'homme a compris que pour pouvoir manger, je démarre le livre par une citation d'un vétérinaire belge qui s'appelle Léonard Théron et qui dit les deux besoins fondamentaux de l'homme, c'est sa liberté et le besoin de se nourrir. Et l'agriculture est cette couche impalpable qui nous sépare de la barbarie parce qu'elle permet aux hommes de se nourrir. Et à partir du moment qu'on est bien nourri, on peut espérer la liberté. Et pour pouvoir sonorer, effectivement, l'homme, quand il a compris qu'il pouvait se poser quelque part, a commencé à cultiver, à élever certains animaux, à sélectionner des plantes de façon empirique au départ. Il y a toute une période qui va jusqu'à la période romaine où finalement tout était inventé. L'irrigation, le drainage, la façon de travailler le sol qui évolue depuis. Évidemment, tout a évolué, mais tout ça existait dès ce moment-là. On a fait que l'améliorer par petites touches depuis. L'autre grosse période qu'il y a eu, c'est la période de la conquête des Amériques qui nous a ramené des plantes nouvelles.
L'agriculture du 20e siècle, du 21e siècle sera forcément plus pauvre en intrants et ça ne sera possible que si elle est plus riche en connaissances, en savoir et donc en innovation.
Totalement. Totalement. Et là, je pense que, alors, sans tomber dans le solutionnisme technologique, parce que ça ne reste que des outils, il faut les considérer comme ça, le numérique nous apporte cette énorme chance de pouvoir agréger une quantité énorme de connaissances. L'INRA a publié récemment, je l'ai vu pendant le salon de l'agriculture, un rapport où il parle du génome, de la cartographie du génome des plantes. À partir de ça, on peut travailler énormément de choses. Et si on a développé l'agriculture depuis 50 ans, surtout depuis 50 ans, en intensifiant l'utilisation d'intrants, le challenge maintenant, ça va être d'en utiliser moins, parce qu'il faut en utiliser moins, mais utiliser beaucoup plus de connaissances.
L'avenir est aux agripreneurs.
Oui, alors ça, j'ai pris ça en Afrique. J'ai fait plusieurs missions là-bas, j'ai contribué à monter quelques start-up, et effectivement, quelqu'un avec qui j'ai travaillé en Côte d'Ivoire installe des agripreneurs, des entrepreneurs en agriculture. Et là-bas, ils sont fiers de l'entreprise. Effectivement, chez nous, on voudrait voir revenir, pour certains un peu en arrière, voire plus petit. Pour moi, c'est une énigme. Pourquoi voir plus petit? Ça reste une énigme. Et les Africains voient ça comme un besoin d'entreprendre. Et je dirais même, ça peut en choquer certains, que l'industrie est quelque chose de noble. Par contre, il va falloir la revisiter, la refaire différemment.
Alors justement... on va y revenir parce que vous insistez bien sur le fait que on va vers finalement une pluralité des filières, une pluralité des modèles, une pluralité des activités, mais il y a quand même un doute, on se dit mais finalement le modèle qu'on a vu finalement manifester là au cours des dernières semaines, ce modèle de la ferme de 50 100 bêtes etc, est-ce que ça c'est pas un modèle qui est condamné quand même en France? Est-ce que c'est pas illusoire de faire croire à tous ces paysans qui ont cette taille d'exploitation qu'ils ont un avenir en fait?
Ça dépend où ils sont. Je parle dans le livre des fruitiers racontés en Franche-Comté.
Et c'est. Ah mais ça c'est l'exemple toujours de la filière qui réussit.
Bah oui.
Parce qu'elle est super bien intégrée.
C'est le plus bel exemple coopératif que je connaisse.
Ouais.
Et là, ce modèle de ferme peut exister. Mais c'est sûr que pour fournir les commodities dont on a besoin tous les jours pour manger, si on veut avoir conserver et reconquérir même notre souveraineté alimentaire, c'est un modèle agricole qu'il va falloir développer. Probablement plus rationnel, mais il y aura plusieurs modèles parce que on va se rapprocher de plus en plus des terroirs, et il n'y a pas deux terres qui sont pareilles. Ce qui est, et on a sûrement voulu depuis 50 ans standardiser trop de choses. On va revenir à individualiser, on pourra le faire malgré tout à grande échelle. C'est pour ça que le modèle qu'on aura demain, je pense que oui, des fermes avec 50, 100 vaches ne pourra pas persister. Pour autant, je pense pas qu'il sera remplacé par des modèles en France, par des modèles comme on en voit aux États-Unis ou ailleurs avec 30, 40 000 vaches. Non, il y a un juste milieu entre tout ça.
Vous dites que nous allons d'une agriculture vivrière vers une agriculture hybride. Et oui. C'est un mot qu'on retrouvera avec vous, ça, Yves Lerse. Oui. Ça veut dire quoi?
Alors, on revient en fait à une agriculture hybride parce que l'agriculteur, avant que ça ne soit vraiment un métier, fournissait de la nourriture, mais fournissait aussi de quoi faire les vêtements, la laine, le coton, plein de choses comme ça, et fournissait de l'énergie. On brocarde quelque part l'énergie, les biocarburants. Mais quand il y avait les bœufs et les chevaux, les agriculteurs fournissaient des biocarburants qui étaient à l'avoine pour nourrir les chevaux. Et on va revenir à cette agriculture. Un autre élément qui est peut-être lui plus nouveau, les agriculteurs de plus en plus accueillent aussi à la ferme, accueillent des jeunes, des moins jeunes. Il y a toute une éducation, notamment l'éducation à l'alimentation, qui va démarrer de la ferme. Donc effectivement, les services rendus par l'agriculture vont devenir hybrides.
L'agriculteur de demain, en fait, s'il veut vivre, et il va faire beaucoup plus que nous nourrir. C'est-à-dire qu'en gros, il va dégager du revenu de bien d'autres sources que la seule revenu qui consiste à fabriquer et vendre de l'alimentation.
Oui, mais ça, il va falloir qu'elle apprenne à en faire du revenu, parce que juste depuis un certain nombre d'années, beaucoup de choses comme ça, les agriculteurs les faisaient assez naturellement, mais gratuitement. Je pense que demain, il va falloir apprendre à les faire, et je pense que les gens sont prêts à payer pour venir dans les fermes, pour apprendre un certain nombre de choses, par exemple, ou pour venir en vacances et tout ça. Ça commence avec les gîtes à la ferme, des choses comme ça, les vacances à la campagne, mais c'est des choses qui vont se redévelopper, oui, j'en suis sûr.
Quelles innovations sont les plus prometteuses?
Alors, incontestablement, même si c'est le truc à la mode depuis quelque temps, c'est l'intelligence artificielle, et particulièrement l'intelligence artificielle générative. Je vous ai parlé tout à l'heure du génome des plantes. Depuis que l'homme a domestiqué la nature, on a domestiqué à peu près 6500 espèces de plantes.
Ouais.
Il y en a 200 qui sont sélectionnés, qu'on a travaillé pour sécuriser les rendements, pour sécuriser la qualité, la robustesse et tout ça. 80% de l'humanité en mange 20 à 25. Et 4 font 60% de l'apport énergétique des humains, le blé, le maïs, les pommes de terre et le riz. Évidemment, le riz, qui est même le premier.
Ouais.
Et le champ du possible, il est énorme. Et là, il y a un vrai challenge. Et je pense que, dans le sens noble qu'on peut donner à la politique, il y a des décisions à prendre. Je pense que on va devoir utiliser, je pense, pour améliorer rapidement un certain nombre d'espèces, utiliser les meilleures techniques qu'on a maintenant, les NBT dont on parle, les New Breeding Technology de sélection, que certains assimilent à des OGM, qui pour moi n'en sont pas, vont devoir être utilisés. Mais pour moi, il y a une condition. Il faut qu'on rende open source ces techniques-là, de façon à ce que chacun puisse les utiliser. Personne n'a le droit...
C'est-à-dire mettre à la disposition de tout le monde.
Personne n'a le droit de s'approprier le patrimoine commun de l'humanité qu'est le génome. Donc, il y a je pense, des décisions à prendre là-dessus. Ça ne veut pas dire que celui qui aura trouvé quelque chose, fait quelque chose, ne mérite pas une récompense pour ce qu'il a fait. Mais il y a quelque chose à inventer de ce côté-là.
Les filières alimentaires, comment elles vont s'organiser, qu'est-ce qui va changer, est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde, c'est-à-dire, vous savez, le schéma classique, le petit producteur qui dégage beaucoup de valeur, ceux qui vont faire de la production de masse, etc. Est-ce que ça aura encore un sens,
Oui, si ça correspond à un segment de production qu'à un marché. Il va falloir redonner de la place au marché, qu'on le veuille ou non. Et le tout, ça sera de se retrouver dans un segment de marché qui correspond à ce qu'on fait. Il y a actuellement, par exemple, une crise dans l'agriculture biologique, dans bien des productions en biologique. Pourquoi ? Parce que par rapport aux besoins, il y a trop de production actuellement. Et alors pourquoi le besoin ? On pourrait dire, il faut que les gens consomment plus de bio. Ok, mais le bio coûte plus cher. Tout le monde ne peut pas l'acheter. Donc, il faut que le marché soit en phase avec l'offre et la demande. C'est essentiel. Et ça, on n'y est pas. Si on arrive à mettre ça en place, il y a de la place pour tout le monde.
Vous attirez l'attention sur un point qui est le rythme de la transition vers une agriculture plus verte. Comme on peut alerter, ou comme alertent certains, sur la transition énergétique, est-ce que, vous appelez ça la pression des écologistes de l'apocalypse, et est-ce que à force de vouloir aller trop vite, finalement, dans cette transition écologique, on ne va pas jusqu'à compromettre, finalement, cette transition en la rendant, finalement, insupportable?
Moi, j'aime bien ce qu'avait écrit Hubert Védrine au moment du Covid, dans un petit livre qui s'appelait « Et après », où il parlait d'environnement avec trois éléments. On disait comme ça, il vaut mieux emmener 80% vers 80% d'une démarche verteuse que de viser un élitisme que certains voudraient, mais où on amènera peu de monde. La deuxième chose, c'est accepter qu'il faudra du temps, parce qu'il faudra du temps, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y mettre tout de suite, au contraire. Mais il faut accepter le temps long pour que les choses puissent évoluer. Et troisième chose, c'est accepter d'y mettre beaucoup d'argent. Actuellement, je ne suis pas sûr que ces trois éléments-là soient véritablement réunis, et pourtant, c'est inéluctable. On veut toujours aller vite, on voudrait voir le résultat de ce qu'on fait quasiment le lendemain, ça, c'est pas possible.
Dernier point, Hervé Pilot, parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur l'agriculture qui l'abordent. Vous dites, l'agriculture du 21e siècle ira de pair avec une refonte du mutualisme, parce qu'on sait que le mutualisme, ça structure énormément le monde agricole. Et vous dites là, c'est pareil, avec les nouvelles technologies, il va falloir repenser le mutualisme.
Ah, je pense, oui. Et je dirais qu'il est en train de se repenser, parce que le mutualisme, de façon empirique, est né en réseau. Et les modèles économiques depuis quelques années l'ont emmené une structuration pyramidale. On le voit dans les différentes mutuelles qu'il y a pour les assurances, pour le système bancaire. On le voit dans les coopératives où on a eu une massification. Je parlais tout à l'heure des fruitiers racontés. C'est les seuls, à ma connaissance, qui ont su conserver quelque chose qui fonctionne en réseau. Toutes les fruitières sont indépendantes, mais toutes interconnectées. Ce qui fait qu'ils sont en capacité, par exemple, de racheter les affineurs quand il y en a à vendre, parce que la masse de l'interprofession du compter fait qu'ils sont capables de le faire. Les lactosérums et tout ça, ils se sont organisés pour les traiter ensemble. Donc, ce modèle plus en réseau, qui est permis là aussi par la plateformisation avec les nouvelles technologies, permet ça. Et je pense que ça va revisiter le mutualisme. Certains disent, par exemple, que les jeunes ne s'engagent plus. Moi, je suis convaincu que les jeunes continuent à s'engager. Ça dépasse l'agriculture. Mais ils s'engagent différemment. Et justement, avec des nouveaux moyens qu'on a à notre disposition maintenant, c'est une évolution assez normale.
Alors, s'il y a un des secteurs, Yves Lers, de l'agriculture, qui est confronté, lui, au défi du réchauffement climatique, c'est la viticulture. Et la viticulture, c'est pas des produits qu'on plante et qu'on récolte et on peut passer à autre chose l'année d'après. Quand vous plantez de la vigne, c'est pour 20, 30, 50, 70 ans. Donc, c'est compliqué de faire les bons choix. D'abord, à l'échelle mondiale, quel défi le réchauffement climatique pose-t-il au monde du vin ?
Il n'est pas le même partout. Si on commence par la Gaule, hein, ou la France, ouais, préférée, le défi du changement climatique, il est conjugué à ce que les humains ont fait comme conneries, comme bêtises, si vous préférez. Et il y en a pas mal comme ça. Donc si vous additionnez le changement climatique plus ce qui a été fait dans certains vignobles, en particulier dans le sud-ouest, je parle du Bordelais plus que des autres, et ben vous le payez à un moment donné. Et le changement climatique, c'est comme un plus. Il arrive là-dessus en se frottant les mains, en disant « mais moi c'est mon tour, vous allez voir ce qui va vous arriver ».
Alors au niveau mondial, Yves Lasse, il y a des pays qui se retrouvent dans des situations encore pires que nous. C'est-à-dire, on pense, je sais pas, à l'Australie, par exemple, qui a irrigué beaucoup, etc. Oui. Est-ce qu'il y a pas, c'est quoi aujourd'hui les pays les plus fragilisés en matière viticole par le réchauffement climatique ?
C'est l'Espagne.
Ah ouais ?
C'est d'abord l'Espagne, ensuite, dans une certaine mesure, l'Italie, ouais, et ensuite la France, mais la France sur d'accord, la partie sud. Ouais. La partie sud et tout, on ne sait pas comment ça va remonter et tout. Au niveau international, vous parlez de l'Australie, vous avez raison, mais ce n'est pas vrai de la Nouvelle-Zélande.
D'accord.
La Nouvelle-Zélande, elle a géographiquement un endroit, elle va s'en sortir, et elle s'en est sortie en 2023 beaucoup mieux que l'Australie. L'Australie, c'est très compliqué, malgré l'ingénierie qu'ils ont et la capacité de réfléchir, ce que vous disiez tout à l'heure. Sur le numérique, ouais, je pense que là, il va falloir aussi y passer. Ensuite, en Amérique latine, c'est le Chili qui a des choses qui se disent. L'Argentine souffre beaucoup.
Ouais.
Effectivement, les États-Unis s'en tirent très bien. Ils représentent presque 25% de la viticulture mondiale.
Alors, qu'est-ce que ça va bouleverser en matière d'implantation de cépages et même de lieux de vignobles ? Est-ce qu'il y a des vignobles qui vont disparaître ? Est-ce qu'il y a des régions dans lesquelles on va voir apparaître du vignoble ? Moi, j'étais frappé dans votre livre, exactement comme le disait Hervé Pilot, sur le fait qu'on a utilisé finalement une toute petite variété pour se nourrir par rapport à tout ce qui est disponible. Vous citez des chiffres, il y a 2600 variété disponible de raisins,
ouais,
et on en utilise une trentaine.
Oui, parce qu'on prenait ce qui rendait, ce qui donnait le plus de raisins et le plus d'argent. Ouais. C'est comme ça qu'on a fait du vin absolument dégueulasse pendant des années, quand on croisait avec du vin qui venait de l'Algérie, etc. Un vin qui était, mais l'ouvrier buvait son litron par jour. Maintenant, c'est plus le cas, comme ça.
Mais donc, vous dites, en fait, il y a plein de cépages locaux.
Oui. Il y a plein de ces cases locaux
qui vont finalement aujourd'hui être redécouverts comme dans une forme de démondialisation du vin finalement.
Il y a plein de cépages locaux qui ont été oubliés et qui maintenant reviennent à la surface avec des jeunes viticulteurs ou moins jeunes d'ailleurs, c'est pas forcément le cas pour les plus jeunes ou autres, mais qui découvrent des cépages anciens. Il y en a un à côté de Lyon qui fait ça maintenant. Il a pris les cépages de son grand-oncle, qui, comme vous disiez, faisait un peu de vin d'un côté, un peu de pommes de terre de l'autre côté, etc. Et il s'en tirait. Il a éliminé tous les cépages classiques, hein, les chardonnays et compagnie qu'on a beaucoup plantés. Et il est revenu à ces cépages-là, et il arrive à faire un vin qui est très bon, qui est bio, mais on reparlera du bio après, parce que c'est compliqué le bio pour la vigne. C'est pas forcément la... Je me suis fait rentrer dedans par un grand viticulteur de Bordeaux, Jacques Lurton, pour pas le citer, c'est la famille Lurton, qui m'a dit, tu sais, le bio, hein, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Et puis, il y a toujours le cuivre, il y a toujours d'autres choses comme ça. Lui, c'est l'agroécologie. D'abord, l'agroécologie, et c'est ça qui permettra de s'en sortir.
Alors, est-ce que... Alors, vous aussi, un peu comme Hervé Pilot, vous dites il y a une piste qui est le retour des vieux cépages, et vous dites l'avenir c'est les vignes hybrides résistantes.
Non, je dis pas c'est l'avenir. Je dis c'est en cours d'essai.
Ouais.
Dire si ce sera l'avenir,
on sait pas encore.
J'en sais rien.
C'est trop tôt.
J'en sais rien.
Alors c'est quoi les vignes hybrides ?
Alors les vignes hybrides, vous prenez une vigne de chez nous, hein, une Vitis vinifera classique, et vous l'hybridez avec une vigne venue des États-Unis, comme on a refusé de le faire au début du XXe siècle, après la fameuse crise du phylloxéra.
Ouais.
Et donc on a un raisin qui, effectivement, on l'appelle aussi des vignes résistantes. Enfin, c'est ceux qui cultivent qui appellent ça des vies de résistance. Les premiers qui ont fait ça sont les Allemands et les Suisses. Les Suisses sont très pointus sur les qualités de vin. Ils ont des centres de recherche de haut niveau. Et ils ont commencé là-dedans à hybrider pas mal. Et maintenant, ils cultivent carrément des vins qui sont entièrement faits avec des vignes hybrides. En France, c'était oulala, oulala. On va pas se mettre les pieds là-dedans ou les mains dans des vignobles pareils. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Même si, à l'époque, dans les années 70, un chercheur de l'INRA, à l'époque c'était l'INRA tout court, de l'INRA avait découvert ce qu'on pouvait faire avec des vignes hybrides, et puis il s'est fait rentrer dedans par tout le monde, dans son cercle, on n'a pas besoin de ça. Mais maintenant, depuis, ça commence à changer pas mal. Il y a des vignerons qui plantent dans le sud-ouest ou des vignes comme ça, hybrides. Alors, ils en plantent plusieurs, sortes différentes, ouais, pour voir ce que ça donne. Et en plus, comme ça, ils peuvent vendanger une semaine l'une, une semaine l'autre, une semaine l'autre. Économiquement, c'est pas idiot. Et ça fait des vins qui sont pas forcément très, très, très qualitatif. Ouais. Mais ça fait quand même des vins qui sont...
Milieu de gamme, quoi, on va dire.
Ouais, c'est ça. Ils sont buvables. Mais il y a des petits vins, maintenant, qui sont dans les vins traditionnels. J'ai acheté un Côte-du-Rhône hier à 4,03 €. Ouais. Mais il est délicieux. C'est le 0,3 qui compte.
C'est le 0,3 qui compte. Pour faire le parallèle, là encore, avec ce que disait Hervé Pilot, qui citait comme exemple la filière du comté, est-ce qu'il y a des régions en France qui sont des régions modèles un petit peu pour s'adapter au réchauffement climatique?
Oui, il y a des régions modèles, et il y en a une, j'avais commencé mon bouquin par ça, c'est le Sancerre.
Ouais.
Le Sancerre, c'est une toute petite région de grande qualité, hein, une grosse butte. Et si les gens ne connaissent pas, il faut y aller parce que je trouve que c'est un coin qui est magnifique en plus. Et j'ai commencé ma tournée, si je peux vous dire, en France par le Sancerre. Parce que j'avais vu un vigneron qui me dit, mais vous devriez venir voir et tout. Il y a un salon des vins dans mon village à La Roche-Guyon, donc naturellement on rencontre plein de gens comme ça. Et du coup, on l'a fait, on est allé les voir. Ils ont une sorte de centre de recherche à eux, ouais, qui finance et tout. Et les vignerons, depuis la Première Guerre mondiale, réfléchissent aux évolutions de la vigne, etc. Toujours avec les mêmes cépages pour l'instant. Et après, ils réfléchissent avec les producteurs de plantes, de plants, qui ont fait beaucoup de conneries pendant des années, en laissant des trucs mouillés, enfin, je ne sais pas, sur les délais. Et au fur et à mesure, ils arrivent à faire... Avec maintenant la recherche publique, c'est compliqué la recherche publique sur le vin en France. Hein, ça se mange un peu entre eux. Oui. Ça se marche sur les pieds des fois.
Si malheureusement ça n'était que sur le vin.
Mais il y en a beaucoup. Hein, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent. Ouais. Mais il y a aussi des gens comme ça qui arrivent. Et ceux-là arrivent avec un niveau de qualité. Et depuis, cette qualité se transmet. Les gens de Champagne sont venus les voir en disant, tiens, comment vous faites ceci?
Justement, la Champagne, c'est un des grands, évidemment un des grands atouts viticoles de la France. Est-ce que la France va rester le grand pays du vin qu'il était jusqu'à maintenant?
En quantité ou en qualité?
Est-ce que la France, est-ce que nous allons garder un énorme excédent commercial en matière de vins et spiritueux parce qu'on va continuer à vendre nos vins dans le monde entier? Est-ce que ça va rester un des plus grands employeurs de France ou est-ce que c'est un secteur qui est amené
10% de la vigne meurt tous les ans.
Ouais.
En peu de temps, ça fait mal quand même. Alors, c'est pas seulement le changement climatique, c'est les maladies du bois là, qui rentrent dans la vigne, etc. C'est d'autres choses comme ça qu'on n'arrive pas à soigner. Les maladies pour la vigne, c'est quelque chose d'épouvantable. Les champignons qui se glissent là-dedans, c'est vraiment quelque chose de difficile. Alors, je reviens au 45e parallèle. 45e parallèle, c'est juste au nord de Bordeaux.
Ouais.
Et autrefois, c'était tout se fait, c'est le 45e parallèle, ouais, on fera le meilleur, vous vous rendez pas compte, etc. Eh ben, ça a changé. Ça a changé. Il y a un bonhomme qui a fait un bouquin il y a même pas une douzaine d'années. C'est formidable, le 45. C'est un viticulteur. C'est formidable, le 45e parallèle, non. Mais maintenant, c'est plus tout à fait formidable parce que le réchauffement climatique, il met son nez dedans, là, pour le coup. Ce qui fait que le Bordeaux, aujourd'hui, on va arracher 10 000 hectares, on va arracher 20 000 hectares, on sait pas exactement. Finalement, c'est nous qui allons payer, hein. Et puis, au fur et à mesure, parce qu'on n'a pas voulu voir ce qui se passait. Et c'est les petits du Bordeaux supérieur, qui font parfois des très bons vins, qui s'aperçoivent qu'en arrivant à la retraite, ils vont pas pouvoir transmettre à leurs enfants, parce que les enfants, ils en veulent pas, s'il y a des enfants. Une retraite de 600 euros, si tu peux pas vendre ta vigne, qu'est-ce qui se passe? T'es dans la merde complète.
Alors, je vous pose la même question, encore une fois, qu'à Hervé, sur les modèles de filière. Est-ce que l'avenir, demain, pour la viticulture, est-ce que c'est ce que j'appellerais l'industrialisation du vin, c'est-à-dire les énormes fabricants de vin français, les grands chais, etc. Ouais. Est-ce que c'est la coopérative les viticulteurs amènent leur vin et puis c'est la coopérative de vin. Est-ce que c'est le modèle plutôt de vigneron qui reste maître chez lui, qui fabrique un peu ses vins d'auteur, mais qui va trouver des structures pour l'aider à distribuer, à vendre et peut-être à garder un peu plus une partie de la valeur? Est-ce qu'il y a un modèle comme ça qui vous paraît vertueux?
Je pense qu'il n'y a pas un modèle, mais il y a plusieurs modèles, effectivement. Ça rejoint ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, à savoir, il y a toujours beaucoup. C'est dans l'ensemble de l'agriculture, c'est dans la vigne qu'il y a le plus de petits producteurs et de petits viticulteurs. Ça reste comme ça. Moi, j'ai été élevé en grande partie à Morgon, où j'allais en vacances tous les ans. Et je vois maintenant le fils de mon copain qui reprend. Au fur et à mesure, ils ont racheté des vignes, ils restent comme ça, ils vont vendre sur place, ils se bougent énormément pour arriver à s'en sortir, mais c'est pas facile. C'est pas facile, ils en bavent, ils font des prix qui sont des prix cassés, du vin qui est à 12, 15 euros, ils le font à 10. Et ça, c'est un modèle qui va continuer à survivre dans les régions où il y a du bon vin. À Châteauneuf-du-Pape, en Bourgogne ou dans les Grands Bordeaux.
Est-ce que les régions d'hier sont les régions de demain? C'est ça la question.
A priori, oui, mais il y a une nuance, à savoir que maintenant, on peut, avec le changement climatique, planter ailleurs que là où on plantait autrefois. C'est-à-dire sur des nouveaux vignobles, qui ne sont pas des vignobles traditionnels, mais où ça marche bien.
Mais dans les mêmes régions.
Et dans les mêmes régions, etc.
Merci.
Maintenant, comment ça va se passer dans l'avenir? Il y aura aussi de la place pour ce que vous disiez. Pour les très gros, il y en a déjà de la place. Hein. Ouais. Ils en font des gros, en Côte-du-Rhône, etc. et tout. Mais le reste, moi, je vois le Bordeaux partir plutôt vers le nord, nord-est de l'Europe.
Merci beaucoup à tous les deux pour avoir exploré un petit peu nos destins agricoles et viticoles de demain. Hervé Pilot, Vers un monde sans fin. L'agriculture, là commence notre futur. C'est aux éditions Diaténo. Et puis Yves Lers, Vin, le grand bouleversement. Quelle vigne pour quel climat? C'est aux éditions Buchet-Chastel. Merci beaucoup
à tous les deux. Si vous me permettrez, on pourrait enlever Vin et mettre climat à la place et le grand bouleversement.
Pareil. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons avec nos chroniqueurs, comme de coutume. Cette semaine, c'est Frédéric Simotel qui jouera les Globetrotters et puis Marjorie Adelson qui sera notre bibliothécaire. Et nous démarrons tout de suite, évidemment, avec nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et puis grand animateur de la rubrique livre à Alternative Économique, Jean-Marc Daniel. À ma droite, professeur émérite à l'ESCP Business School, et puis le critique, lui, historique de la société d'économie politique. Allez, on commence avec votre choix. Tiens, Christian, comment bifurquer les principes de la planification écologique? C'est par Cédric Durand et Razmig Kochian. C'est aux éditions Zone.
Ouais, tout à fait. On sait aujourd'hui qu'on doit changer de modèle de production et de consommation si on veut arriver à soutenir la vie humaine sur la planète. Le problème, c'est comment on fait. Et donc, première question, est-ce qu'on peut avoir un capitalisme un peu plus vertueux, respectueux de l'environnement, ou est-ce qu'on peut pas? Bon, les auteurs nous disent, on peut pas. Il va falloir se faire autrement. Pourquoi on peut pas? Parce qu'ils nous disent, le rapport Pisani, Mahfouz, il nous dit que pour faire la bifurcation, il faut casser des investissements bruns et il faut développer des investissements, on va dire, verts. Casser des investissements bruns, ça fait ce que les économistes appellent des actifs échoués. Ça fait pas de profit, ça. Ça intéresse pas le capitalisme. Développer les actifs verts, ça va tout doucement, ça va pas assez vite pour faire la transition, ça rapporte pas assez. Donc le capitalisme ne le fera pas. Qu'est-ce qui pourrait l'inciter? Ils disent, il y a deux politiques qui sont sur la table. Il y a la méthode Biden, ce qu'ils appellent le néo-industrialisme, et ça, ils en veulent pas non plus. Ils disent, non, ça s'est transféré de l'argent des contribuables vers les entreprises, et puis en fait, vous faites un investissement vert, ça marche, ça finit par vous rapporter, tant mieux. Si ça marche pas, c'est l'État qui va socialiser vos pertes. Donc, non, on n'en veut pas. L'autre approche, c'est par le marché. Il y a qu'à mettre un prix du carbone qui est susceptible de faire arrêter les comportements pas bons en termes environnementaux. Et là, ils nous disent, ça non plus, on n'en veut pas. Les SUV, par exemple, eux, ils disent, est-ce qu'il faut interdire le SUV ou est-ce qu'il suffit de mettre, on va dire, 20-30% de taxes supplémentaires sur le carburant des SUV? À ce moment-là, c'est le fait qu'il y ait des SUV ou pas en ville, ça va dépendre de la capacité à payer, de la volonté et la capacité de payer des plus riches. Donc, c'est les plus riches qui vont déterminer s'il y a des SUV ou pas dans les villes. Ça leur va pas. Et les plus pauvres, qui ont déjà du mal à s'en sortir, on va pas augmenter le prix de leur conso, il faut décarboner leur conso, il faut pas mettre un prix supplémentaire. Donc ça leur va pas non plus. Ils disent qu'il faut qu'on fasse autre chose, et donc le reste du bouquin, c'est pour dire cette autre chose, c'est quoi? D'abord, une nouvelle comptabilité. Elle existe déjà, la comptabilité CARE, et donc cette comptabilité, elle consiste à faire un calcul de rentabilité environnementale. Vous voulez investir dans un projet, il y a la rentabilité financière à calculer, mais aussi la rentabilité environnementale. Si le projet coûte plus cher à la nature ou pour réparer la nature que les bénéfices, à ce moment-là, il ne faut pas le faire.
C'est une façon d'intégrer le prix du carbone, quelque part.
C'est oui, mais là, ils nous disent, on peut maintenant, avec les datas dont on dispose, on peut aller regarder pratiquement minute par minute l'état de la planète et ce que chacun, nous, chaque entreprise plutôt, fait sur l'état de la planète. Et c'est ce calcul-là qu'il faut faire, et ils conduisent pas à dire il faut du coup internaliser une sorte d'effet d'externalité négative. Non, il faut regarder ça, il faut faire un calcul de rentabilité financière. Il faut une demande émancipée d'ici là. C'est pareil, la demande émancipée, c'est quoi? C'est tous les consommateurs s'appuient sur les data pour savoir exactement quand ils veulent acheter quelque chose, si ça fait du bien socialement ou pas, si ça fait du bien environnementalement ou pas. Tout ça encore s'appuie sur la data. Alors, ils sont un peu coincés quelque part parce qu'ils nous disent toutes ces data, ça veut dire des gros ordinateurs, c'est pas très environnemental. Donc il faut le faire dans la sobriété. Bon, où est la limite? Et puis à la fin, bien évidemment, il faut la planification écologique. Et là, on a des très très longs développements sur concrètement la planification écologique. C'est un cycle où on fait parler les gens, où on choisit. Bon, ils nous décrivent tout le cycle de la planification écologique. Et ils nous disent, il y a que à ces conditions-là qu'on peut vraiment bifurquer. Toutes leurs solutions. On se dit que si un jour ça arrive, ce sera plutôt dans 50 ou 100 ans. Donc, intellectuellement, je partage pas franchement toutes les analyses qui sont dedans, mais j'ai trouvé que c'était un livre intéressant parce que ça aide à réfléchir, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Je trouve qu'il y a des vraies propositions, une vraie analyse intellectuelle, et ça nous permet d'avancer sur le débat, et c'est ce qu'on demande à deux universitaires quand ils s'attaquent à un sujet.
Enfin, dans notre triptyque impossible, ou dans notre triangle d'incompatibilité entre justice sociale, écologie et économie, j'ai l'impression, Jean-Marc, que c'est un peu la liberté qui fait les frais de tout ça.
Oui, tout à fait. C'est totalement la liberté. Ils se mettent d'ailleurs, il annonce au tout début. Alors, c'est très érudit. On commence par une évocation littéraire de Borges, un roman qui s'appelle, une nouvelle qui est dans un recueil qui s'appelle Fiction, qui est que je recommande d'ailleurs par ailleurs. Et puis ensuite, Christian l'a dit, il y a quatre parties. On dénonce d'abord le capitalisme, ensuite on dénonce les réponses du capitalisme au problème de l'écologie, et ensuite on propose la planification écologique. Et la planification écologique, alors il explique bien, effectivement, il faut pas se faire d'illusions, le consommateur dans le système capitaliste est totalement entre les mains du producteur, il est totalement influencé, il est absolument... Donc on va lui donner une forme de liberté, mais enfin il faut quand même un certain nombre de contraintes, parce qu'on va lui imposer une vie décente. Alors une vie décente, c'est une vie qui est au-delà du strict minimum, mais c'est une vie sobre. Et donc la planification écologique va être là pour organiser la vie décente. Et à la fin, ils disent, est-ce qu'il y a des exemples possibles? La Chine. Le Parti communiste chinois a organisé d'une certaine façon, ils disent, en fait, il y a deux formes de capitalisme. Il y a un État capitaliste, c'est l'État qui est soumis au capitalisme, c'est l'État dans lequel nous vivons dans les pays néolibéraux. Et puis il y a, donc face à l'État capitaliste, il y a le capitalisme d'État, il y a le capitalisme politique, qui reconnaît effectivement certaines initiatives, mais qui obéit à un motif politique qui est incarné par la planification écologique. J'ai trouvé ce livre à la fois, comme le dit Christian, très intéressant sur le plan intellectuel et inquiétant. Prenez écrit ça en 1900 ou...
Il ne défend pas le modèle chinois.
Ils disent c'est un modèle, c'est un exemple.
C'est un modèle contrôlé par le Parti communiste qui est antidémocratique et ça, on n'en veut pas du tout.
Oui, ça leur trouve un substitut. Ils disent, mais c'est quand même un substitut. Et alors, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est qu'effectivement, au travers de la planification, à un moment donné, ils disent, mais la planification, ça n'a pas marché. Et ils font tout un passage sur un personnage, donc à part Christian Gaulier, qui est une de leurs têtes de tiers, ils attaquent beaucoup Oscar Lange. Alors, Oscar Lange, c'est le grand réformateur polonais des années 50, qui disait effectivement qu'à la fin des fins, le but de la planification, c'était de trouver le bon prix. Et ils disent, c'est un traître, parce qu'il ne faut surtout pas passer par les prix. Il faut passer par la volonté politique, pas par les prix. Et donc... C'est un retour à une vision d'une forme d'utopie totalitaire qui est absolument angoissante.
Volonté politique organisée par le débat démocratique permanent. Permanent. Oui. Ça vient pas d'en haut, ça vient d'en bas.
Oui, oui, c'est les Soviets, ils le disent bien. C'est les Soviets qui vont organiser. Ils le disent, c'est les Soviets.
Jean-Marc Daniel, le grand caricature.
On se retrouve dans les années 50, oh, mon Dieu. Alors, Jean-Marc, votre choix, un livre au titre assez mystérieux. Qui a voulu effacer Alice Recoq? C'est le livre de Marion Carré chez Fayard. De quoi s'agit-il, Jean-Marc?
Alors, il s'agit de la biographie de Alice Recoq et on l'a voulu l'effacer de Wikipédia. Alors, quand j'ai commencé à lire le livre.
Qui est Alice Recoq?
Alors justement, Alice Recoq, c'est une physicienne, je vais vous en dire plus. J'ai commencé à lire le livre, évidemment, comme toujours, par la préface, puisque je fais des préfaces. Je me suis dit, cette préface étant consternante, je vais être obligé d'abandonner très vite ce livre. Pourquoi je me suis embarqué dans cette aventure? Et en revanche, dès qu'on rentre dans le livre, on rencontre donc Alice Recoq avec d'abord un style d'écriture qui est passionnant, qui est très vivante, qui est très chaleureux, qui est une sorte d'empathie pour l'autrice pour le personnage d'Alice Recoq. Et Alice Recoq, c'est qui? Donc, c'est une physicienne. Elle est née dans les années 1920. Elle passe son bac en 1944. Elle appartient à un milieu relativement aisé qui vit en Algérie. Et donc, on passe son bac. C'est-à-dire, elle fait pas partie du système où on faisait l'école primaire supérieure, puis on devenait instituteur. Et donc, elle peut préparer les grandes écoles. D'ailleurs, elle prépare les grandes écoles à Paris en étant logée par son oncle qui est un héros de la résistance. Et elle rentre à l'école de physique et chimie de Paris. Et il y a une description de sa rencontre avec son mari. D'ailleurs, elle s'appelle Alice Arnaud, de son nom de jeune fille. Et Recoq, c'est le nom de son mari qui est un de ses camarades de promotion. Et à la sortie de cette école, elle va rentrer dans une petite boîte d'informatique qui va être à l'origine de tout un tas de développements informatiques en France. Alors, il y a le personnage de Pierre-Henri Raymond, qui est le fondateur de la boîte, est assez bien décrit. Il va être marginalisé au moment du plan calcul parce qu'il dit au général de Gaulle que c'est pas à l'État de s'en mêler, que c'est l'avenir l'informatique, mais que l'État doit définir le cadre et laisser les ingénieurs agir. Donc, elle va subir un peu cette marginalisation, elle va rebondir. Et donc, on a un portrait à la fois très humain d'une femme qui existe, qui se bat dans des conditions difficiles parce que son mari meurt alors qu'elle est très jeune et donc elle a trois enfants élevés. Elle se bat contre un milieu qui est dominé par des ingénieurs. Elle-même, elle a fait une école d'ingénieurs qui n'est pas une des plus prestigieuses, donc elle se bat aussi contre mes jeunes et anciens chers camarades. Elle se bat contre tout ce bloc-là et elle s'affirme. Et alors, il y a un passage que je trouve absolument génial. C'est qu'à un moment donné, on lui confie une mission, c'est d'aller voir au Japon comment ils ont pu développer autant l'informatique. Et alors, les Japonais disent, voilà, c'est grâce à monsieur... Puis il lâche un nom. Les Japonais sont un peu gênés. Et en fait, c'est un ingénieur français. Et les Japonais, et eux, la délégation française, où il y a tout un tas de hauts fonctionnaires, elle est à la tête de la délégation. Ils n'ont jamais entendu parler de cet individu qui a développé la base de l'intelligence artificielle à Marseille. Et une de ses forces, justement, c'est d'être capable de dire, écoutez, c'est pas parce que vous le connaissez pas qu'il est ignare, qu'il est inutile, qu'il sert à rien. Regardez, les Japonais s'inspirent de lui. Et la description qu'elle fait de ces Japonais qui se demandent si on est idiot ou extrêmement machiavélique à faire semblant de pas connaître ce personnage est absolument passionnante. Bon. Un livre, un bijou.
Ah bon, Christian?
Bon, c'est pas un grand livre, mais c'est un livre important. Ouais. Pourquoi? Parce que on avait parlé du livre de Camille Desjardins qui montrait ses grandes patronnes au XVIIIe siècle.
Absolument.
Il y a toute une histoire du capitalisme français dans lequel les femmes ont été invisibilisées. Et Camille Desjardins nous disait au XVIIIe siècle, les femmes n'ont aucun pouvoir. Regardez toutes ces patronnes. Là, on est dans le monde contemporain. Il y a des femmes qui ont joué un rôle dans le développement de l'informatique en France, dont le rôle est oublié. Alice Recoq en fait partie. Et elle était tellement dans l'ombre qu'il y a des commentateurs de Wikipédia Wikipédia qui disent mais on va pas garder une fiche Wikipédia, on trouve pas de référence sur elle, alors que cette biographie montre bien qu'elle a été l'un des personnages clés du développement de l'informatique en France. Alors moi j'ai trouvé que ce symbole, le personnage, l'individu même m'intéresse assez peu, et moi je suis pas du tout de l'avis de Jean-Marc. Je trouve que la préface de Michel Perrault, la grande historienne Michel Perrault, est remarquable parce que c'est le symbole qui nous intéresse plus que le personnage. L'autrice Marion Carré, elle s'est dit, elle a été accrochée, elle a voulu tout savoir quand elle était bébé, et en 1939 quand la guerre éclate, qu'est-ce qu'elle a pensé. Les 100 premières pages, nous ça nous intéresse pas beaucoup sur l'individu en tant que tel. Ce qui nous intéresse, c'est le symbole de la femme oubliée qui effectivement dans les années 50 est embauchée à la SEA et qui va participer à la construction du premier ordinateur français. Dans les années 50, la France rivalise avec IBM et la SEA rivalise avec IBM. On apprend au détour d'une page qu'à un moment donné, l'entreprise a des difficultés parce que l'INSEE va commander un IBM plutôt que... Alors, ils ont demandé un ordinateur à la SEA, il y a du retard, le cahier des charges n'est pas bien rempli, dit l'INSEE, donc tant pis, ils laissent tomber la société française pour aller demander un ordinateur à IBM. Donc, l'INSEE, quelque part, a contribué au fait que les Américains ont dominé l'informatique. Elle va effectivement, comme l'a dit Jean-Marc, les ordinateurs sont trop gros, pas assez efficaces, on va faire des ordinateurs plus petits, plus efficaces. Elle contribue à ça. Mettre en réseau les ordinateurs, elle y pense déjà. Il y a l'intelligence artificielle, dès le début des années 80, notamment au voyage au Japon, elle est au cœur de tous les développements scientifiques importants liés à l'informatique en France. C'est une femme oubliée, et merci à l'autrice, merci à Marion Carré de nous avoir fait ressortir ce personnage.
Bon, bah écoutez, deux livres en tout cas, pleins d'aspérité aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on les aime. Allez, on retrouve tout de suite notre bibliothécaire, Marjorie Adelson.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
Bonjour Marjorie.
Bonjour.
Marjorie Adelson, journaliste à BFM Business et qui est notre bibliothécaire. Alors aujourd'hui, on parle d'un livre étonnant, ça s'appelle « Un coup d'avance ». C'est publié aux éditions Economica. De quoi s'agit-il ?
Oui, alors déjà, est-ce que vous aimez jouer aux échecs, Emmanuel ?
Pas du tout, je n'y connais rien.
Et ben moi non plus. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché d'être captivée vraiment par cet ouvrage.
Ouais.
En fait, il propose un éclairage à la fois historique et sociologique qui nous montre qu'en fait, les échecs sont le miroir de notre société.
Un mot des auteurs, Marjorie ?
Alors, il y en a trois. Jean-Marc Payol est un ancien chef de la communication du groupe Alliance. Mathilde Choisy, c'est une ancienne championne d'échecs et qui est aujourd'hui coach. Et enfin, Bachar Kouatli est président de la Fédération française des échecs.
D'accord. Alors, l'un des intérêts du livre, c'est d'expliquer le rôle des échecs dans l'histoire.
Oui, il revient par exemple sur l'impact de la défaite de la Russie lors des championnats du monde d'échecs contre les États-Unis.
Ouais.
Voilà. Et plus récemment, avec la guerre en Ukraine, je ne sais pas si vous avez vu passer ça dans les médias, mais la Fédération d'échecs a annoncé qu'elle changeait de continent, elle a quitté l'Europe pour se rattacher à la Russie. Alors le livre nous explique en quoi les échecs, c'est de la géopolitique aussi.
La Fédération russe n'est plus rattachée à l'Europe, mais...
À l'Asie, oui, comme quoi.
Et les échecs, c'est aussi un outil de soft power.
Oui, alors initialement, c'était plutôt un outil de stratégie militaire, mais très vite, c'est devenu un symbole de l'intelligence, très utilisé notamment dans la communication politique. D'ailleurs, Ronald Reagan ou plus récemment Donald Trump n'ont pas hésité à poser officiellement devant un échiquier pour se donner une forme de prestance à l'image.
On ne sait rien si ce sont de vrais joueurs.
Ça, on ne sait pas. Voilà. C'est la magie de l'image.
Alors, l'autre intérêt du livre, c'est qu'il nous raconte comment la pratique des échecs a évolué au rythme des technologies.
Oui, alors déjà, en 48, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous étiez peut-être pas né, Alan Turing avait développé un algorithme de jeu d'échecs. Alors aujourd'hui, la pratique... ça date quand même. Aujourd'hui, la pratique, elle est majoritairement numérique. Beaucoup de championnats, d'ailleurs, se jouent en ligne. Et même l'apprentissage, a été amélioré par la digitalisation. Les plus grands champions du monde s'entraînent grâce à toutes sortes de bases de données qui sont extrêmement complexes et grâce à la puissance informatique. D'ailleurs, pas mal de secteurs, aujourd'hui, ont peur des progrès de l'IA, mais c'est pas du tout le cas des échecs, puisque de toute façon on sait depuis longtemps que l'ordinateur, on peut battre l'homme lors d'une partie d'échecs.
Et bien voilà, ce petit voyage dans l'histoire des échecs. Merci beaucoup Marjorie Adelson. C'est l'heure de retrouver notre globetrotter. Je ne sais pas s'il est joueur d'échecs. On va lui poser la question.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Et on retrouve notre globetrotteur du jour, c'est Frédéric Simotel, aujourd'hui notre éditorialiste.
Bonjour Emmanuel.
À BFM Business, et ça tombe bien parce que nous sommes dans une semaine extrêmement riche Frédéric, pour l'intelligence artificielle notamment, avec le vote au Parlement européen de l'IA Act, la remise à Emmanuel Macron du rapport sur l'intelligence artificielle générative. Et donc, vous avez choisi trois livres, donc deux sur l'intelligence artificielle, publiés pour l'instant uniquement en anglais, qui nous font un petit peu un état des lieux de l'IA générative.
Oui, et puis comme c'est la rubrique Globetrotter, j'essaie de voir des gens qui sont pas forcément des auteurs américains qui écrivent en anglais.
Absolument.
On a quand même des gens avec un profil assez particulier. Le premier, je vous le conseille, hein, c'est un livre qui s'appelle Unmasking AI. C'est par Joy Bialomwini. Ouais. Alors c'est une
Random House.
Oui, c'est une informaticienne et poétesse ghanéenne américaine. Ah ouais. Ses parents étaient émigrés aux États-Unis de première génération. Je crois que son père était chercheur, sa mère était artiste et son père était chercheur dans la partie santé. Et puis donc, elle très tôt, elle s'est intéressée à tout ce qui était technologie, ordinateur. Elle est allée à Georgia Tech Université. Enfin, elle a pas mal bourlingué. Et puis elle s'est rendue compte très très tôt de tous ses biais. Étant de couleur noire, sa peau, elle s'est rendue compte que quand elle faisait des tests sur la reconnaissance faciale, eh bien, il y avait un souci quand on avait la peau noire. Et elle a regardé. Et puis un jour, elle a fait un test. Elle était à Hong Kong. Elle était dans une convention. Et puis quelqu'un lui parle d'un robot qui reconnaît, fait la reconnaissance faciale, tout ça. Et puis il la reconnaissait pas vraiment par rapport à toutes les photos qui avaient été prises avant. Et tout d'un coup, elle s'est dit, tiens, je vais tester quelque chose. Elle a pris un masque blanc, d'où d'ailleurs la couverture du livre. Ouais. Elle se l'est mis devant le visage. Et là, le robot l'a reconnu tout de suite, c'est-à-dire il a reconnu que c'était elle. C'est-à-dire il a vu, donc elle a collé un peu ces masques blancs un peu qu'on voit au carnaval de Venise, ce genre de choses. Elle a mis ce masque blanc, donc c'était ses yeux, c'était son nez, etc. Mais avec une couleur blanche. Et là le robot là, et c'est là où est parti, d'où est partie toute sa réflexion. Et donc elle a commencé à regarder l'intelligence artificielle. Et donc comme elle s'intéressait à la robotique, à l'intelligence artificielle, c'est là qu'elle a commencé à regarder tous ces biais, tous ces entre guillemets, ce racisme, hein, quelque part, de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, vous savez, ça fonctionne avec quoi ? Ça fonctionne avec des algorithmes, de la puissance de calcul et de la data. Et cette data, si elle vient que de données où on prend des individus plutôt race blanche, caucasien, eh bien oui, ça va moins bien se passer que si on mélange plusieurs races. Et donc aujourd'hui, elle a vraiment travaillé dessus. Et donc elle accompagne son livre, de toute son expérience autour de ça. Alors, elle raconte l'expérience qu'elle a elle-même en tant que chercheuse et au milieu des chercheurs, une femme d'origine noire, c'est un peu différent. Mais elle raconte aussi qu'en termes de développement, là aussi, il y a pas mal de choses différentes. Et je trouve que c'est assez intéressant en ce moment où on parle beaucoup d'éthique, on parle beaucoup de ces algorithmes, de ces biais, où nous-mêmes, on est en train de dire il faut qu'on développe notre IA française pour avoir des biais européens. Je trouve important de lire ce livre. Enfin, voilà.
Alors, deuxième livre que vous avez choisi, Frédéric. C'est le livre Atlas of AI by Kate Crawford.
Oui.
C'est aux presses universitaires de Yale.
Oui, c'est une chercheuse australienne. Alors, elle est assez connue. Elle travaille chez Microsoft, dans la partie Microsoft Research. Et alors, elle aussi. Alors, c'est un livre. J'ai fait exprès de pas prendre vraiment des livres qui parlent de la technologie, mais qui prennent un peu de recul. Et justement, elle s'intéresse un peu au côté holistique de l'IA. Elle va regarder les implications éthiques, sociales de l'intelligence artificielle. Ça complète d'ailleurs un peu le livre Unmasking AI. Donc, c'est pour ça que je vous conseille un peu les deux. D'ailleurs, c'est Aurélie Jean, que vous connaissez bien, qui me les a conseillés. Donc, du coup, je me suis lancé dans cette lecture. Et donc, elle s'intéresse à l'intelligence artificielle. Elle dit d'abord, attention, c'est pas une technologie verte. La main-d'œuvre est quand même, pour entraîner tout ça, elle est mal payée. Il y a bien sûr tous ces ingénieurs hyper puissants et on en a des très forts en France. Mais la main-d'œuvre, les petites mains qui sont à rentrer les datas pour les moteurs, elle est plutôt mal payée. C'est un système qui est non autonome. C'est un coût énorme en ressources naturelles. Hein. Je sais plus, vous faites une requête ChatGPT, je sais plus combien de litres d'eau ça consomme. Enfin, c'est assez impressionnant. Et donc, elle s'intéresse à tous ces sujets. Et puis, elle continue. Elle essaie de faire comprendre comment il ne faut pas se faire une fausse idée de l'intelligence artificielle. On a l'impression que ça va tout résoudre, tout ça. Elle dit attention, la vision de l'IA qui est abstraite et immatérielle, c'est faux. C'est une vraie technologie aujourd'hui qui utilise, comme je dis, dès la puissance calcul, des logiciels. Donc, elle explique tout ça. Et puis, elle explique aussi toute la partie impact social. Et je pense que c'est important aujourd'hui parce que justement, à la fin de l'année, et là je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a le rapport qui a été rendu auprès d'Emmanuel Macron, et bien à la fin de l'année, ou peut-être début 2025, on aura un sommet sur l'intelligence artificielle en France, et justement, on va revenir, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, humains, pour nous, européens, pour ce sommet, ben voilà, cette intelligence artificielle, ce sera assez intéressant.
Et on termine en s'éloignant un peu de l'intelligence artificielle, Frédéric, avec un livre sur le métaverse, que devient le métaverse, c'est par Matthew Ball et c'est aux éditions Norton & Co.
Et ce qui est assez amusant, c'est que métaverse, Meta, c'était plutôt Meta Facebook.
Ouais.
Et Matthew Ball, lui, vient des Amazon Studios. Voilà, il avait travaillé beaucoup sur ce domaine. Et lui, alors, il continue à croire parce que tout le monde dit, hein, le métaverse est une vague un peu longue. Avant que l'IA générative arrive, Mark Zuckerberg avait mis beaucoup en avant le métaverse. Bon, voilà, on a vu qu'il y a eu des milliards d'investis. Il a fait un peu machine arrière. Il s'est reparti sur l'IA générative. Mais le métaverse, c'est quand même cette structure 3D, ce monde virtuel. Il est en train de s'installer peu à peu. Et donc, Matthew Ball, ben, il indique un peu, il est assez positif. Hein. Il rappelle que le terme métaverse, il a été inventé il y a 30 ans dans un roman de science-fiction qui s'appelait Snow Crash de Neil Stephenson. Et puis, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est qu'il serait temps. Si on veut que le métaverse fonctionne, il faut qu'on parle tous le même langage. C'est-à-dire qu'on commence à avoir les mêmes technologies, qu'on ait des définitions. Parce qu'aujourd'hui, il y a des définitions complètement contradictoires, hein, du métaverse. On parle du Web 3, mais de la crypto, et puis d'autres, vous dites, c'est Second World. Donc voilà, donc c'est assez intéressant pour avoir ce côté positif sur le métaverse. Donc Matthew Ball, The Metaverse, qui existe peut-être en français, il faudra regarder.
Et ben voilà, merci beaucoup Frédéric Simatel. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui ?
Alors, j'ai choisi le dernier livre de Rémi Prudhomme. Rémi Prudhomme, on le connaît, c'est un économiste qui milite pour une vision un peu modérée, et raisonnée, et raisonnable de l'écologie. Donc, son dernier livre s'appelle...
À mettre en écho avec votre
Il n'est pas pour la planification écologique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est pour une transition écologique raisonnée. Donc, son livre s'appelle « Transition écologique, le coût des rêves ». Et donc, il explique qu'à trop vouloir bien faire, on finit par menacer la poule aux œufs d'or, on va détruire notre société et on va se retourner contre effectivement l'objectif initial, c'est-à-dire qu'on va rendre l'écologie totalement impopulaire. Donc c'est un livre de sagesse et de raison.
Christian Chavagneux.
Complètement autre chose, le dernier numéro du magazine Finance et Développement, c'est le magazine du Fonds Monétaire International.
Ouais.
Tout un dossier sur non pas est-ce que la science économique doit changer, mais comment la science économique doit changer. Très intéressant, plein de contributions, dont une du prix de la Banque de Seine, Angus Deaton, qui dit « Je fais un recul sur ma vie, l'économie mainstream, c'est n'importe quoi ». Je n'y crois plus. C'est écrit comme ça. J'ai changé d'avis sur l'économie mainstream. Donc ça surprend de la part d'un économiste aussi talentueux et réputé que lui. On n'a pas assez traité les questions de pouvoir.
Ce qu'il appelle l'économie mainstream pour nos auditeurs et téléspectateurs.
Bon, c'est l'économie à la Jean-Marc Daniel,
néoclassique,
libéral.
On fait l'économie keynésienne où la dette résout tous les problèmes. C'est ça qui est mainstream en ce moment.
Pas du tout, parce que lui, Angus Deaton, lui, insiste sur le fait que l'économie mainstream ne prend pas assez en compte les rapports de force, que les économistes sont devenus des techniciens de l'efficacité et que les effets sur la société, sur les gens, on ne les prend pas en compte. Voilà, et que les économistes, et son appel final, mériteraient d'être un peu plus humbles parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, ils ont l'impression qu'ils ont la solution et que ceux qui ne les écoutent pas sont des idiots. Il dit calmez-vous, mes amis économistes, mes confrères économistes, un peu d'humilité, s'il vous plaît.
Ben alors moi, aucune humilité dans les bouquins que j'ai choisis, parce que je vais tout simplement vous expliquer comment devenir riche. Enfin, c'est plutôt ces deux bouquins qui vont vous expliquer comment devenir riche. Marie Buffett, si je le dis comme ça, vous allez tout de suite comprendre. Marie Buffett et David Clark, d'un côté, Warren Buffett et l'interprétation des états financiers. Le deuxième, c'est Marie Buffett et Sean Sea, les 7 secrets de Warren Buffett pour devenir riche. Les deux sont publiés chez Maxima. Vous avez tout ce qu'il faut savoir pour essayer de gagner de l'argent en bourse. C'est là que vous verrez si vous êtes aussi talentueux, malgré tout ça, que Warren Buffett lui-même. Marie Buffett, elle a été 12 ans la belle-fille de Warren Buffett. Et donc, voilà, on peut penser qu'elle a quelques tuyaux intéressants nous fournir. Donc, je ne sais pas. Je ne sais jamais quoi penser de ce genre de livre dont les Américains raffolent sur comment devenir riche, stratégie d'investissement, etc.
J'attends les mémoires du chauffeur de Warren Buffett qui doit avoir mon tuyau.
Voilà.
Et là... elle est devenue riche en épousant un homme riche. Mais... elle a épousé le fils de Warren Buffett.
Oui, mais elle a...
C'est une alors, technique, ça aussi.
Elle, hein. Elle n'a été que 12 ans, la belle-fille de Warren Buffett. Donc, on peut penser qu'elle a continué à profiter de la poule aux œufs d'or, finalement, en faisant des conférences et en rédigeant des livres.
Il faudrait voir le jugement de divorce. C'est le plus intéressant dans le livre.
Merci. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.